Vous écoutez France Musique.
Merci Françoise de Georges.
Chemin rêvant, Olivier Naoum.
Bonsoir, bienvenue dans Chemin rêvant qui s'ouvre ce soir aux côtés d'Annie Dupéré. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre pour ce partage autour de « Allons voir plus loin, veux-tu ?» point d'interrogation aux éditions Retrouvées. Et puis de cette folle de Chaillot qui vous accompagne sur scène à la Comédie des Champs-Élysées. Dans « Allons voir plus loin, veux-tu ?» mais aussi dans la folle de Chaillot, il y a une galerie de destin, une galerie de personnages qui... Dans ces deux œuvres, finalement, vont être réunies à la fin par une magie du destin que nous n'allons pas dévoiler, ce qui donne à ce travail d'écriture un côté polyphonique, un côté choral. Et pourtant, vous nous avez dit juste avant que ne démarre cette émission que vous n'étiez pas du tout musicienne, que vous n'aviez jamais eu envie de jouer d'instrument. Alors que quand on contemple ce livre « Allons voir plus loin, veux-tu » ou « La folle de Chaillot », on se dit « Cette femme a dû être complètement remplie de pratiques musicales », mais non.
Ah non, pas de pratique. Mais j'aime beaucoup la musique. J'ai fait une comédie musicale avec Bernard Jourdeau. J'ai aimé chanter. J'ai, je crois, une oreille très juste, mais j'ai jamais eu envie de le faire avec mes mains, disons. Voilà. Mes mains, je sentais que ça allait être un boulot absolument énorme et horrible parce qu'elles ont tendance à vouloir faire exactement la même chose en même temps. Donc, ça allait être un travail technique qui allait m'ennuyer horriblement. Donc, je n'ai jamais eu envie de jouer d'un instrument. Je laisse les autres en jouer, c'est très bien.
Quand vous écrivez ce livre, qui finalement revient à nous grâce aux éditions Retrouvées, d'abord, ça inspire quel sentiment ? Parce que « Allons voir plus loin, veux-tu » était déjà sorti en librairie et en fait, il revient. Alors comment on se sent, puisque vous portez un livre que vous avez déjà défendu ? Est-ce que c'est comme si vous étiez aussi, vous, en phase de redécouverte de ce que vous avez déjà écrit ?
Redécouverte, je ne sais pas, je ne l'ai pas relu. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est dans les romans, disons que c'est quand même un de mes préférés, celui-là. Parce que c'est certainement le plus complexe. Et je sais que j'avais pris énormément de plaisir à l'écrire, bon tous, mais celui-là particulièrement, parce que j'aimais bien, j'avais envie de traiter cette question, pourquoi est-ce qu'il y a des gens, enfin j'avais des amis autour de moi, j'observais cette chose-là à ce moment-là, des gens qui se trouvaient dans une impasse psychologique ou de vie, comme ça, et il y en avait certains qui avaient le coup de rein pour en sortir, et d'autres qui n'avaient pas le courage d'aller voir plus loin, justement, qui allait rester enfermé comme ça. Je connais une ou deux personnes qui ont été incapables de se sortir de leurs problèmes ou de leur impasse, et puis d'autres qui trouvent le moyen. Et je trouvais ça assez fascinant d'essayer de traiter ce sujet-là sur quatre personnages différents qui sont à un point où ils se heurtent un peu à un mur pour continuer leur vie. Alors, est-ce qu'ils vont s'enliser à ce stade-là ? Où ils sentent que ça va plus, mais est-ce qu'ils vont rester là-dedans ? Ou alors est-ce qu'ils vont oser sauter le pas pour aller voir derrière l'inconnu, quoi ? Sauter un pas pour aller voir ce qui se passe un peu plus loin.
Et alors, quand on a à imaginer le destin de Christine, qui est là, quinquagénaire, face au dilemme du temps qui passe, quand on a à réfléchir sur le destin de Paul, ce paysan qui est sensible et poète, sauf que sa famille ne l'est pas du tout, ou encore aux aventures de Solange, une guichetière plutôt nourrie d'agressivité, et puis ce Luc qui est face à sa femme, est-ce qu'elle est vraiment faible, est-ce qu'elle n'est pas faible ? Quand on a à réfléchir à tous ces personnages, on pense plus musique ou plus peinture? Parce que on sait aussi que vous, dans l'œil, vous avez le rêve de la peinture qui vous accompagne depuis le départ.
C'est pas tellement peinture. Là, c'est plutôt mise en scène. C'est plutôt mise en scène. Je crois que très clairement, tous les romans que j'ai écrits, ce sont les films que j'aurais pas le courage de faire. Je dis pas j'aurais pas le courage parce que, et tant mieux d'ailleurs, parce que comme ça, ça m'a permis de faire des livres. Parce que je ne suis pas meneuse d'hommes. Comme je fais des films comme comédienne, je sais très bien les qualités qu'il faut pour mener à bien un film, le nombre de gens qu'il faut convaincre que votre scénario est bon, après le nombre d'acteurs qu'il faut convaincre que le rôle est bien comme ça, qu'il n'y a pas à le changer, que le dialogue est bien et qu'on ne va pas non plus... Je veux dire, c'est absolument terrifiant. Faut vraiment être meneur d'hommes et avoir un don de conviction que je n'ai pas, du tout, du tout, du tout. Je me ferai écraser parce que moi, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Je n'y arriverai pas. Donc, les films, quelque part, que j'avais dans la tête, je les ai écrits. Et c'est vrai que, pour la plupart, c'est des scénarios en puissance.
Nous étions en 1967 à Londres avec Victoria de Los Angeles et Elisabeth Sparkoff, Gerald Moore au piano pour ce duo des chats, compilation d'œuvres de Rossini avec langage particulier, n'est-ce pas, Annie Dupéré, parce que vous aviez signé en son temps ce fameux chat de hasard où vous parlez de tous ces matous qui ont accompagné votre vie. Mm-hmm. Et précisons quand même que vous dites « j'ai pour les animaux Un amour.
Un amour raisonnable.
Voilà. Et on peut penser quand même à cette confidente qui était Missoui, c'est ça, oui. La petite chatte qui est partie. Mmh. Mais dans l'évocation de ces chats et de ces animaux, ce sont eux qui sont les sources d'inspiration, parce que c'est vrai que vous avez aussi défendu la poule. Donc oui. On s'est dit que voilà, tout ça est quand même lié. Vous ne cessez de dire ici et là que vous aimez les chats et les poules.
Et les poules, oui. Non, c'était des livres formidables à faire, ça, parce que je crois que je ne peux pas, à travers ces deux livres-là, qui sont un peu deux pendants comme ça, Les chats de hasard et Le poil et la plume, je ne peux pas faire de portrait plus intime, en fait. C'est dès qu'on touche, moi ce qui m'intéresse à travers ça, c'est évidemment, c'est nous. C'est nous. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la douceur des chats, de leur tendresse sans mots, comme ça, de ce rapport très, très privilégié, très... très tendre et très, très simple, en fait. Et avec les poules, il y avait cet inconnu. Cet inconnu, les gens n'y connaissent rien, ça a fini par m'énerver à la longue. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on se désintéresse de cet animal à ce point-là, enfin, alors qu'il nous accompagne, que c'est le plus nombreux sur Terre à être maltraité, et on n'y connaît rien. Et ça m'a semblé étrange, quand même, presque ce refus de savoir qu'est-ce que c'est. Combien de temps il faut pour couver, comment ça se fait un œuf, je veux dire, personne n'y connaît rien. Et il y a quelqu'un qui écrase une poule, on rigole. Et, on écrase un chien, on ameute le quartier. Enfin bon, il y a une disproportion comme ça de réaction sur la compassion qu'on peut avoir envers un animal qui est extrêmement... Moi qui finissait par me choquer. Mais alors dès qu'on parle... d'animaux. Alors, les poules, c'est encore pire, parce que c'est un animal qui est absolument totalement dépendant de nous. Le chat, à la limite, s'il n'est pas heureux là où il est, il peut se tirer. Une poule, c'est rare. Elle ne peut pas. Elle est vraiment là où... Elle est faible, quoi. Elle est dépendante de nous. Et à chaque fois qu'on parle, à mon avis, du rapport à la dépendance, au faible, comment on le considère, comment on prend soin de lui, comment on l'observe, on parle de nous, de notre manière d'envisager la vie et de comment on traite la faiblesse, justement.
Mais alors finalement, c'est parce que vous êtes intéressé à un moment aux poules que vous avez pu, dans « Allons voir plus loin, veux-tu », imaginer l'histoire de ce Luc qui est face à une femme qui joue justement avec sa faiblesse. Vous croyez que tout est lié ?
Non, je ne sais pas si tout est lié. Ça peut être... Non, je n'ai pas pensé à ça, forcément. Ça, c'est des rapports beaucoup plus compliqués. Une femme comme ça qui c'était assez amusant, d'ailleurs, d'imaginer un personnage comme ça, parce que je me disais, ben, c'est assez simple, finalement. Il y a qu'à... Elle est l'inverse de moi. Je veux dire, tout ce que je ne ferais pas, tout ce que je ne penserais pas, tout ce que je n'essaierais pas de faire, c'est ce qu'elle fait. Ceci dit, j'en ai croisé comme ça de loin. Vaut mieux croiser de loin... un ou deux personnages qui pouvaient faire penser à quelque chose comme ça. Il y a des êtres dangereux. Hein. Il y a des êtres assez dangereux quand ils cherchent à avoir le pouvoir sur quelqu'un.
Mais quand on est actrice, on l'apprend, ça, à découvrir les êtres même, dangereux depuis le départ.
Même. Non, ce qui était passionnant dans « Allons voir plus loin, veux-tu » à faire, c'est quand j'ai eu l'idée de ce sujet, je me suis dit « Ouh là 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 là, là j'en ai au moins pour 3 ans de travail. » Et puis je me suis dit « ça va faire un gros livre ». Moi, j'aime pas les gros livres. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire peut-être un gros livre pour les gens qui n'aiment pas les gros livres. C'est-à-dire que je vais faire 4 petits livres
ah oui, qu'on peut séparer.
Qui sont comme 4 nouvelles qu'on peut lire complètement à part, qui sont comme une histoire complète. Mais comme alors, je reviens au cinéma plutôt, comme un gros plan sur quelqu'un. Voilà, on a un gros plan sur un passage de la vie de quelqu'un et qui fait comme une nouvelle. Et j'ai voulu donner 80 pages, enfin... Elles sont peut-être plus 80 pages dans ce livre-là, qui est écrit assez gros et assez confortable à lire. Et j'avais 4 nouvelles de 80 pages, égalité absolue. Et puis après, on apprend comment ces gens interfèrent entre eux et qu'en fait, ces 4 nouvelles forment un roman. Et c'était assez amusant à faire.
Thank you.
Ce final vivace de la symphonie numéro 83 en sol mineur, dite donc symphonie de la poule Hind, interprétée par le Berliner Symphony Orchestra sous la direction de Kurt Sanderling. On a écouté cette poule, on a eu le chat au départ. Ça veut dire que Annie Dupéré, vous portiez en vous cette folle de chaillot. Vous êtes sur la scène de la Comédie des Champs-Élysées, sauf votre respect, comme on dit dans ces cas-là.
Oui, oui, oui.
Elle était une amie qui dormait au fond de vous.
Oui, 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 quelque part. C'est un rôle très étrange, la folle, parce que c'est... D'abord, elle n'est pas si folle que ça. D'ailleurs, c'est une femme de sens, elle dit à la fin. Elle dit, il a suffi d'une femme de sens. C'est un esprit libre. C'est un esprit libre et c'est un rôle étrange en ce sens où c'est quand même un rôle mythique, quelque part. C'est un grand privilège d'avoir à jouer ça, quand même. Parce que justement, elle n'est pas très définie. Je dis toujours, c'est vrai qu'il faut trouver sa folle comme on trouve son clown quelque part. C'est-à-dire qu'il faut profiter de tout ce qu'on trimballe. Je crois qu'on ne peut pas s'amuser à composer vraiment. Non, puisqu'elle n'est pas définie. Quand on arrive, on dit mon Dieu, quelle est cette figure ? Mon Dieu, quelle est cette figure ? Ça peut être une figure, ça peut être, on peut inventer un peu ce qu'on veut. Alors il y a une tradition, elle a été écrite pour Marguerite Moreno, qui avait inventé, pas inventé d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de femmes à l'époque qui étaient des folles comme ça, dans la rue, qu'on appelait les folles, c'est les cinglées, les toquées, qui se maquillaient. Il y avait la môme bijou, il y avait ces femmes qui se maquillaient comme ça énormément. C'était peut-être l'époque qui voulait ça... ou qui se regardait plus dans les miroirs, comme la folle de Chaillot qui dit « Je me regarde, mais non pas dans la glace, elle est fausse, mais dans le dessous d'un gong en cuivre. » Évidemment, quand on se maquille en se regardant dans le dessous d'un gong en cuivre, on peut sortir dans un drôle d'état. Mais elle s'en fout, parce qu'elle se trouve plus belle dans un gong en cuivre, donc elle se regarde dans un gong en cuivre, et puis elle sort dans l'état où elle est. Et puis elle se fabrique des vêtements comme elle veut. C'est une liberté, quoi, une liberté de fantaisie, d'un bon sens qui tient uniquement à son expérience à elle, donc qui se soucie pas du qu'en dira-t-on, tout ça. Donc c'est faut la faire. En fait, chaque personne, je crois, qui a joué la folle, est entrée en scène avec un peu d'elle derrière et toute sa carrière qui traîne comme ça, comme une traîne. C'est-à-dire que tout profite à cette femme, tout doit profiter à cette femme. Ce qu'on a fait avant, l'image que le public a de vous, la vague idée qu'on aurait d'une folle de Chaillot, mais adaptée à la personne qui la joue, c'est assez étrange.
Mais quand vous dites cela, on pourrait croire que c'est contradictoire avec ce que vous dites de vous aussi, c'est-à-dire que vous portez une notoriété douce. Or, en fait, ça se marie très bien.
Oui, bien sûr, puisque c'est une folle assez aimable quand même. Elle est l'amie des bêtes, l'amie des animaux. Elle nourrit les oiseaux, elle nourrit les chats, ça commence comme ça d'ailleurs. Parce qu'elle fait tous les restaurants du quartier pour avoir les eaux et les gésiers, pour aller les donner, ce qui reste dans les restaurants, elle doit faire ça tout le temps. Elle fait ça pour aller nourrir, elle a tous ses sacs en plastique, tout ça, pour aller nourrir les chats du quartier. Et on en rencontre plein des folles, il y en a dans la rue.
J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant comme au passé. J'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffer sous mes pas les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre et c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir le jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits tout, j'ai tout retrouvé, hélas. La guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Oh mes printemps, oh mes soleils, oh mes folles années perdues, oh mes 15 ans, oh mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue. Oh les noix fraîches de septembre, et l'odeur des murs écrasés, c'est fou tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher des souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Et je suis seule avec ma détresse, hélas. Pourquoi suis-je donc revenue, et seule au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venue ici, où mon passé me crucifie, où dort à jamais mon enfant?
Barbara, mon enfance, au cœur de Chemin rêvant, ça vous transporte où cette chanson, Annie Dupéré?
Oh, bah, c'est toute la nostalgie sur Terre quand même, celle-là. Mais c'est bien la nostalgie, c'est une chose dans laquelle je navigue assez à l'aise comme ça.
Mais tout de même, quand on écoute cette chanson, et aussi parce que les gens qui écoutent Chemin rêvant évoquent souvent ces situations, vous parliez, et c'est au cœur du livre « Allons voir plus loin, veux-tu ?», il y a des moments dans la vie où on a besoin d'une résilience. Or, vous avez raconté cette enfance que vous n'avez pas eue, cette perte de parents très jeunes. Mm-hmm. Et on pourrait même dire qu'il y a eu cet hommage ensuite à votre père photographe, Lucien Le Graff, photographe inconnu. Vous aviez co-signé ce livre avec Patricia, cette sœur avec qui vous n'avez pas vécu, puisque la séparation de l'enfance, suite à la disparition, vous aviez 8 ans de vos parents.
Oui.
Et vous avez dit finalement avoir grandi sans souvenir.
Oui.
Pendant longtemps. Et est-ce que cette chanson, elle fait écho aussi à cette
expérimentation ? Bien sûr, elle fait écho. Sauf que moi, en plus, je peux... quelque part, la chanson, ce que chante Barbara, elle a plus de chances que moi, elle peut revenir. Moi, il se trouve qu'en plus, on a détruit, c'est pas la malveillance de personne qui a fait ça, c'est le sort. A voulu que les 3 maisons d'enfance dans lesquelles j'ai été...
Dans la région rouennaise ?
Dans la région rouennaise, ont été détruites toutes les 3. Et même le quartier. Alors, il n'y a même pas d'endroit où pouvoir accrocher une mémoire quelconque et retrouver quelque chose, oui. Le quartier où j'ai vécu jusqu'à 8 ans a été entièrement détruit. Ça s'appelait quartier Martinville à Rouen. Et c'était un quartier assez terrible, d'ailleurs, parce que nous, on avait une maison qui était pas mal du tout, qui devait être une ancienne maison de maître où on avait un premier étage. Mes parents et mes grands-parents avaient atterri là après la guerre. Mais le quartier autour était assez terrifiant. Je comprends qu'on l'ait détruit. D'ailleurs, il datait du XIIIe, XIVe siècle. C'était une petite Venise épouvantable, puisque s'il y avait des canaux, qui s'appelait le Robec, il y avait un canal qui servait de déversoir à tous les produits chimiques des usines environnantes. Il y avait les grands moulins de Rouen, il y avait des teinturiers et des tanneries, c'est vous dire quand même ce que ça charriait, ce truc-là. Et c'était un milieu sous-prolétarien terrible. Il n'y avait pas l'eau courante, il y avait... C'était un quartier... mais bon, c'était là-dedans que je suis née, où j'ai été à l'école. Je me rappelle de ces femmes qui me faisaient très très peur, parce qu'il y avait une violence et un alcoolisme. Je vais vous dire, au XIVe siècle, déjà, j'ai lu un livre dessus. Ce quartier était surnommé le nid de chien. Ça en dit long, quand même, sur les êtres qui vivaient là, quoi. C'était bon, donc ça a été détruit, tout ça. Donc je ne peux pas revenir là, je ne peux pas revoir les rues que je traversais pour aller à l'école. Il y avait une autre maison après dans laquelle ma sœur, qui a aussi été détruite pour faire une bretelle d'autoroute. Donc il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit où revenir, ni même pour chercher un vague souvenir. Donc là, il faut partir. Je crois que dans ce cas-là... quand le sort vous a tellement dit de retourne pas en arrière, on n'y retourne pas.
Mais c'est l'écriture qui a été votre thérapie. On a le sentiment que vous dites que c'est cet acte d'écriture qui vous a aidé à vivre, à vivre avec, ou plutôt à vivre sans.
Certainement. D'ailleurs, si je suis devenue comédienne, c'est à cause de l'écriture. C'est parce que, je crois, à partir de 11 ans, quelque chose comme ça, j'ai vraiment découvert que... se pencher sur une table et traduire un éprouvé flou en signes, ou même ne serait-ce que mettre des signes sur une page. Les profs à l'époque donnaient des lignes. Vous savez, quand on était pas sage en classe, ce qui était souvent mon cas, on nous donnait à copier 100 fois ou 150 fois une phrase. Ils pouvaient pas savoir que pour moi, c'était un bonheur total, quoi. Ne serait-ce que d'écrire 100 fois, noircir du papier. Je veux dire, il y avait quelque chose de consolateur dans le fait de tracer des mots, de mettre quelque chose sur le papier. Alors ça pouvait être quelque chose de... À l'époque, c'était des journaux intimes où je ne parlais pas finalement beaucoup, beaucoup de... Il y a une page où je dis un jour j'écrirai mon livre, quand même. Vers 13 ans, j'ai dit j'ai jamais parlé. Donc je tournais autour quand même en écrivant. Mais enfin, c'était très important pour moi. Puis j'étais première en français, j'écrivais pas mal, etc. Bon. Le don le plus évident, c'était la peinture, effectivement. C'était la peinture et le dessin. Donc je suis rentrée aux Beaux-Arts. Ma tutrice qui m'élevait étant inquiète de me faire quitter l'école si tôt, quand même à 14 ans et demi, a pris le conseil d'un orientateur professionnel qui lui a dit « Oui, très bien, très bien, elle est rentrée deuxième sur concours aux Beaux-Arts, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il n'y a pas mieux. » Mais elle écrit, elle lit beaucoup, elle va perdre le contact avec les mots, ça je me rappelle de cette phrase. Pourquoi vous ne l'inscrivez pas au conservatoire pour qu'elle continue à travailler des textes? Et c'est comme ça que j'ai bifurqué, en fait.
Vous écoutez Chemin rêvant, Olivier Nahum, sur France Musique.
Thank you.
A Commedia de Deus de Rodrigo Leao. Ce compositeur portugais sur cet album cinéma qui date de 2004. Et alors cette musique,
J'ai trouvé par hasard et ce morceau-là, pour moi, c'est ma musique intérieure. Et un jour, j'ai été extrêmement frappée parce que quand je l'avais découverte comme ça, je l'ai fait écouter à des amis et qui ont eu cette réaction extraordinaire, qui m'ont dit « Oh là là là, tu veux nous foutre le cafard ?» Et là, je me suis dit « C'est extraordinaire parce que pour moi, ce n'est pas une musique triste du tout. Enfin, c'est ce que j'ai dedans, quoi, disons. Ces passages, on parlait de nostalgie, ces passages très un peu nostalgiques. Oui, j'ai un fond sombre quand même. » Mais qui rebondit et qui aime bien ce côté un peu circassien, comme ça. Et c'est une musique qui flanque souvent le cafard à des gens. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai dedans.
C'est une musique qui rebondit.
Elle rebondit, oui. Elle rebondit. Elle a des tas de notes. Elle a toujours un son grave dessous et puis des choses marrantes, un petit peu de tout.
Et alors, de l'art de rebondir, ça nous ramène justement à « Allons voir plus loin, veux-tu ?» puisque quand vous explorez dans ce livre le premier destin, celui de Christine, vous écrivez à son propos, mais oui, bien sûr, ce n'était une idée ni incongrue ni folle, elle était arrivée à point pour frapper au plus juste le cœur de son malaise, c'était presque un ordre, une injonction salutaire, elle ne savait quel génie avait déclenché une chose pareille, qui lui était tombée comme du ciel, mais c'était extraordinaire, elle se répéta encore une fois, martelant mentalement les mots dans sa tête, « Je vais vendre cette maison ». Et on se dit que c'est extraordinaire que vous ayez écrit ces lignes, en nous parlant donc de Christine, parce que vous, c'est ce qui vous est aussi arrivé dans la vraie vie, un moment où vous avez senti que vous deviez aussi changer d'appartement.
Ah,
il y a
oui,
la Creuse, les racines de la Creuse qui là protégées, les 220 espèces végétales dans le jardin.
Les racines refaites.
Refaites en Creuse. Mais en tout cas, dans la vraie vie, vous avez été comme votre héroïne Christine. À un moment, vous avez voulu changer d'appartement et vous dites même un appartement avec prise de terre, je crois.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'était pas prémonitoire, mais enfin, c'est pas moi du tout ce personnage, mais quand même, bon, il y a des choses qu'on sent comme ça toujours dans les... J'avais lu il y a très longtemps une phrase de Colette que je ne comprenais pas parce que j'avais peut-être une trentaine d'années. C'était là justement où je cherchais à me rattacher à la vie, à me faire un endroit à moi. Et Colette avait écrit dans je ne sais plus quel livre...
Quand une maison vous a beaucoup donné. Qu'elle a
rendu tout son suc, ça c'est une jolie phrase, hein, rendu tout son suc, il est prudent de la quitter avant qu'elle se retourne contre vous. Effectivement. Et bon, ce lieu que j'avais eu pendant 35 ans, où j'ai élevé mes enfants, tout ça, qui était un lieu qui m'a beaucoup donné, j'avais adoré, il était en train de m'enfermer. Et il faut avoir le coup de rein pour en sortir. C'était, en ce qui me concerne, c'était un hasard. Ma fille cherchait un appartement, elle est tombée sur quelque chose, et j'ai sauté en 10 minutes. Donc j'ai fait comme mes personnages d'Allons voir plus loin, j'ai eu le coup de rein. Pour ne pas rester là où je commençais à sentir un malaise, effectivement. Mais ça peut être le hasard, ça peut être... Mais quand le hasard passe, il faut le saisir. C'est ça.
Et ça veut dire aussi peut-être que vous êtes faite de... Certes de tous ces rôles, mais aussi de tous ces livres que vous avez écrits.
Oh, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, sûr. Et puis, c'est très curieux parce que quand on écrit un livre... comme j'en ai écrit, autobiographique. Bon, il y a le voile noir, évidemment, mais je vous écris et des livres très autobiographiques qui sont en fait Les chats de hasard et Le poil et la plume. C'est très balisé, le livre soi-disant très personnel qui pourrait sembler impudique. Parce qu'à partir du moment où on parle de soi, presque au premier degré, on parle de sa vie, on parle de son enfance, tout ça, on sait très bien ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de ne pas dire, où on va s'arrêter. C'est très, on est dans un chemin quand même où on peut choisir les bornes assez facilement. Mais quand on s'attaque tout à coup à la fiction et qu'on se met à rêver sur un personnage, on gratte des choses très étranges. Et justement, dans Allons voir plus loin, il y a ce chapitre sur le paysan.
Paul,
où j'ai eu une expérience étrange parce que j'étais déjà dans la Creuse, donc j'approchais un peu de loin des gens qui étaient encore un petit peu rustiques, très rustiques. Et je me suis mis à écrire cette histoire. Et j'ai eu un sentiment étrange. J'en ai parlé à des amis, d'ailleurs, en me disant, c'est très étrange. Je ne sais pas si ce type dont je parle est au-dessus de ma tête, a envie que je raconte son histoire. Mais il y a des détails qui me viennent. Je décris ce monde dans lequel j'ai jamais vécu, vraiment, que je connais pas quelque part. Je suis sûre de ce que j'écris, c'est ça. Et puis ma vieille tante qui m'a élevée, donc ma tutrice, a lu, comme c'était toujours ma première lectrice, elle a lu ça et elle a eu cette phrase extraordinaire. Elle m'a dit mais c'est étrange quand même parce que tu ne les as jamais connus, mais c'est exactement la famille de ta grand-mère que tu décris là. Ah, je me suis dit donc c'est ça. C'est qu'en écrivant une fiction finalement totale sur un personnage comme ça, j'avais gratté quelque chose qui remontait de très loin. Donc c'est pas anodin la fiction tout à coup, quand on l'imaginaire tout à coup peut prendre des racines dans l'inconscient terriblement.
C'est ça qui est extraordinaire parce que dans Allons voir plus loin veux-tu, on a vu qu'il y avait le cas de Christine qui change de maison comme vous. Il y a ce paysan Paul qui vous inspire finalement les réminiscences de personnages qui font partie de votre famille. Mm-hmm. Et plus loin, quand vous parlez de Solange, qui va rencontrer une clocharde, vous parlez de cette clocharde et vous dites « C'est la clocharde qui, tempérant les uns, rassurant les autres, raccompagnait les policiers à leur car, tapotant familièrement une épaule galonnée, l'un d'eux lui donna une amicale poignée de main avant de monter à la place du chauffeur. » Vous parlez de cette clocharde et on se dit, elle savait déjà qu'elle allait jouer la folle de Chaillot.
Oui,
donc c'est le livre des prémonitions.
Oui. Ben oui, on joue beaucoup avec ça quand même. On joue beaucoup entre le passé, entre l'avenir, entre le devenir, comme ça. Bien sûr, on est fait de tout ça. Moi, je ne suis pas une intellectuelle du tout, vous savez, du tout. C'est pour ça que j'aime tellement Colette, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas une spéculation intellectuelle chez Colette, pas une. C'est une intelligence de tout le corps et de ce qu'elle sent et de ce qu'est. Dieu sait que c'est intelligent. C'est vraiment de la chair, quelque part. Et l'esprit chair, quoi. Et moi, je fonctionne comme ça aussi. C'est extrêmement instinctif, tout ça.
Que tu m'aimes, dis-moi que tu es ma flamme. Dis-moi quelque chose, ne me dis rien. Reste dans le silence du grand désert, dans la musique de l'univers, le paradis. Ne cherche plus mon secrets. Nous osons désir.
Cette chanson s'intitule Coup de théâtre, donc nous devions la faire partager en ce moment, chère Annie Dupéré. Mais on retrouve sur cet album de 2008 Paolo Conte avec la voix d'Emma Chaplin. Alors, Paolo Conte, c'est une des voix qui vous a guidé dans votre...
Non, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand il fait de la musique, surtout avec ses musiciens. Paolo Conte, c'est pas tellement un chanteur, en fait. Ses disques sont... Bon, il y a sa voix dessus, mais c'est surtout la musique qui l'accompagne, je trouve, qui est formidable.
Et ces musiques-là que l'on partage, alors, elles sont des sources aussi de... Comment dire, de résilience, parce que vous dites se reconstruire jour après jour, repartir toujours. Vous avez beaucoup parlé de cette expression « coudrin », mais ce coudrin, il est motivé par quoi ? Par le souvenir des gens que vous avez aimés, que vous continuez d'aimer,
oui,
ou aussi par des musiques, des moments d'allégresse comme ça qu'on sort avec soi-même ?
Je ne m'appuie pas beaucoup sur la musique. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas écouté de musique pendant longtemps. Longtemps. Et puis un jour, je me suis aperçue que je pouvais quand même en écouter. Ça tient à... Ça tient au regret. Le regret est une musique extrêmement prenante. Quand le regret vous habite, ce qui était mon cas, même longtemps après avoir écrit Le Voile Noir, parce que c'est pas parce qu'on écrit un livre qu'on se débarrasse des choses, comme ça. Je me suis aperçue que je ne pouvais pas tolérer de musique parce que j'avais en moi une musique, qui était le regret, voilà, et qui prenait toute la place. Donc toute musique était en trop, toujours. Et puis, le jour où j'ai pris plaisir à écouter un peu de musique, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. C'est que le regret doit s'atténuer. Laisser un petit peu de place en soi pour accueillir quand même de la musique.
Mais regret de quoi ?
Le regret de tout. Le regret de l'enfance, le regret des parents, les deuils, des choses comme ça. Et ça vous habite beaucoup, ça. Ça prend beaucoup de place. Et ça peut prendre la place notamment de la musique. J'appelle ça le regret, on peut appeler ça la nostalgie. Ça vous habite très fortement, c'est une musique, oui. Pendant un moment, je ne me lassais pas du silence. Le silence était pour moi extrêmement, extrêmement habité, vraiment.
Mais alors, quand vous aviez écrit « Allons voir plus loin, veux-tu », vous étiez aussi sous l'emprise, si j'ose dire, de cette musique du regret. Parce qu'à un moment, dans tous ces personnages qu'il y a, il y a le cas de Luc... Et vous écrivez à propos de Luc, difficile d'argumenter, il n'y avait pas de section bande dessinée aux Beaux-Arts, alors Luc avait continué à dessiner ses petits bonshommes en marge des planches d'archi sur les bords de sa table de travail. Puis, au fil des années, les bonshommes avaient peu à peu disparu. Et puis Luc, finalement, il devient dessinateur industriel. C'est cette musique de regret qui a guidé les pas de ce personnage ?
Oui, sans doute, oui. Quelqu'un qui n'a pas, jusqu'à ce qu'il rencontre par hasard tout à coup quelqu'un qu'il sorte de là, qui n'a pas eu la force de dire « moi je veux faire ça », il s'est laissé mener, comme ça. Oui, ça peut. C'est pas tellement le regret, ça c'est quand même un peu une petite part de lâcheté aussi.
Si tu meurs, les oiseaux se tairont pour toujours. Si tu es froide, aucun soleil ne brûlera. Au matin, la joie de l'aurore ne lavera plus tes yeux. Tout autour de ta tombe, les rosiers épanouis laisseront pendre et flétrir leurs fleurs. La beauté mourra avec toi, mon seul amour. Si je meurs, les oiseaux ne se tairont qu'un soir. Si je meurs pour un autre un jour, tu m'oublieras. De nouveau la joie de vivre alors lavera ton regard. Au matin tu verras la montagne illuminée, sur ma tombe t'offrir mille fleurs. La beauté revivra sans moi. Mon seul amour, mon seul amour.
La chanson de Tessa s'invite « Ton chemin rêvant » puisque la musique est de Maurice Jaubert et les paroles de Jean Giraudoux, celui grâce à qui la folle de Chaillot peut être sur scène, celui grâce à qui, eh bien, vous avez, à vos débuts, été dans la guerre de Troie. N'aura pas lieu.
Oui.
Et là, nous avions aussi cette alchimie entre la voix de Mouloudji et l'orchestre qui était dirigé par Michel Legrand. En écoutant la chanson, on se disait, il est quand même terrible, Giraudoux. Il nous offre cette chanson, ses paroles, et il part du principe qu'on connaît déjà l'histoire dont il parle. Il a un côté ovniesque, hein. Il aime bien troubler.
Oui. Mais la pièce, La Folle de Chaillot, était aussi un objet étrange comme ça, parce que c'est... C'est quelque part, c'est un conte fantastique en fait. C'est un conte fantastique. Ça a du fantastique, ça a quelque chose de fantasmagorique, un peu comme ça, et en même temps de très quotidien. C'est là où la difficulté de Giraudoux, à mon avis, c'est que il y a des répliques parfois qui sont extrêmement quotidiennes, comme ça, ça part presque boulevard, quoi. Et puis tout à coup, il y a une phrase poétique au milieu de ça, et ça part par fulgurance. Donc, c'est vrai qu'il faut être extrêmement attentif. En tout cas, il faut que les acteurs soient extrêmement habiles à faire passer les deux. Le côté quotidien, drôle, parce que c'est quand même très drôle, La Folle de Chaillot aussi. Et le côté poésie, et le côté image. Il y a beaucoup, vous disiez là, sur la chanson, que c'était un peu cinématographique. C'est vrai que c'est, quand on parle de... Il faut balancer les images aux gens, sinon on ne les voit pas. C'est un drôle de travail, Giraudoux.
Et ce qui est quand même assez... révolutionnaire et même osé finalement dans La Folle de Chaillot, c'est que on fait la nique au metteur en scène ou à certains qui ont un regard sur la femme et qui estiment qu'elle a une date de péremption, parce que les héroïnes, c'est La Folle de Chaillot plus des dames qui ont déjà vécu retrouvent finalement comme être les souffles du renouveau. Il y a ce côté militant, ce côté complètement déstabilisant.
Oui, esprit libre comme ça, où l'âge, effectivement, l'apparence même n'a pas d'importance. Il parle de l'humanité mâle, qui est une catastrophe. Bon, lui, c'était une pièce assez féministe, finalement. C'est une humanité mâle, oui, qui lui semble affreuse. Les constructeurs, tous ces hommes qui se donnent des airs de constructeurs et qui sont voués secrètement à la destruction. Voilà.
Et cette carrière que vous menez, vous aviez dit dès le départ qu'elle serait une carrière zigzag. Mais on ne fait pas exprès de faire des zigzags, alors.
Non, on ne fait pas exprès, c'est ça, c'est vraiment...
Ça, c'était à 17 ans, un journaliste qui vous demande...
Oui, qui m'a demandé quelle va être ma ligne de carrière. J'ai écouté ce mot absolument ahuri. Puis effectivement, j'ai eu cette réponse qui m'est venue complètement instinctivement, le zigzag. Mais non, ça ne vient pas par hasard. C'est parce qu'on a envie de ça. On a envie, d'abord, moi, au conservatoire, on m'apprenait qu'il fallait essayer de tout jouer. Que fallait essayer de faire des choses drôles et on travaillait la comédie, on travaillait la tragédie, on travaillait tout, et que plus on élargissait son éventail, plus on allait être un comédien complet. Je veux dire, donc le rêve, c'était... Alors après, la difficulté, c'est que les gens vous cantonnent. Évidemment, l'apparence physique joue. Ce que vous avez fait avant, on a tendance à vous le reproposer, parce que vous savez le faire, apparemment. Donc il faut, après, traquer le contre-emploi. Voilà.
Savoir être à contre-temps, un peu comme en musique, d'une
certaine
manière.
Voilà, faut le type, le fou qui va vous proposer un rôle qui, en principe, ne vous va pas du tout, il faut sauter dessus. Voilà, parce que c'est la seule occasion que vous aurez de surprendre les gens. dans quelque chose qui, a priori, n'est pas pour vous. Donc ça, il faut essayer de les choper au passage quand on vous les propose. J'ai eu une chance, c'est de n'avoir aucune ambition.
Vous n'aviez pas d'ambition?
Voilà. Et ça, c'est une grande chance. C'est une grande chance parce que je connais des camarades qui avaient des grandes ambitions, qui voulaient être les meilleurs comédiens du monde ou servir les textes, faire uniquement des belles choses, tout ça, et qui se retrouvent souvent extrêmement déçus parce que leurs ambitions étaient tellement belles et tellement fortes qu'elles ne sont jamais réussi à les atteindre. Moi, j'en avais aucune. Donc c'est une chance. Je vous assure que c'est une chance. J'aimais simplement faire les choses et j'ai happé ce qui se présentait à moi comme ça pour essayer d'en faire le mieux possible, mais sans jamais me dire c'est pas assez bon pour moi. Oh, qu'est-ce que j'aimerais faire plus ou que je... Non, j'avais j'ai été très opportuniste en fait. J'ai pris ce qui arrivait en essayant que ça concorde le plus possible à ma sincérité et à ce que j'avais envie de faire et à la variété de ce que j'avais envie de faire.
terminons ce chemin rêvant avec cette pavane de forêt revue et interprétée par le trio de Bill Evans avec un orchestre symphonique sous la direction de Klaus Ogerman. Ainsi donc se conclut Chemin rêvant. On peut aller à la Comédie des Champs-Élysées, vous applaudir dans la folle de Chaillot avec l'ami Dominique Pinon que nous avions déjà eu le plaisir de recevoir ici. Et puis parcourir les destins de personnages dans Allons voir plus loin veux-tu aux éditions Retrouvées. En conclusion, Annie Dupéré, est-ce que vous avez un ou des mots fétiches?
Des mots fétiches?
Des mots alliés.
Oh, artisan, amitié, franchise.
Artisan, amitié, franchise. Voilà une très belle trilogie pour terminer.
Voilà.
Eh bien voilà, artisan, amitié, franchise. Voilà, ainsi pourrait-on résumer l'essence de nos discussions. Et nous saluons l'équipe, Jean-Michel Bernaud, Françoise Cordet et Anna Cassery. Et alors, bon anniversaire par avance pour ces 50 ans de carrière à l'univers.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.